Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 6 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par Israël, le Conseil de sécurité réagit. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran avertit Israël de la violation de la mosquée d'Al-Aqsa et de ses conséquences graves. Les accusations occidentales au sujet des drones est une excuse maladroite pour arrêter les pourparlers de Vienne, déclaration du négociateur en chef russe. Et puis, la Cisjordanie occupée, nouvelle opération anti-israélienne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran a mis en garde contre les violations de la mosquée d'Al-Aqsa par des responsables et des colons israéliens, affirmant que de telles mesures auront de graves conséquences pour le faux régime de Tel Aviv. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait cette remarque lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissein Brahim Taha. Le chef de la diplomatie iranienne a appelé à la mise en place d'un mécanisme international légal pour mettre fin aux actes sacrilèges contre les lieux sacrés et les sanctuaires religieux. Le chef de l'OCI a pour sa part fermement condamné les dernières violations de la mosquée d'Al-Aqsa par un ministre israélien de droite extrémiste. Il a déclaré que de telles provocations de la part des sionistes compromettraient la paix et la stabilité en Asie occidentale. Taha a décrit l'entrée du ministre israélien de la sécurité dans la mosquée comme étant inquiétante, précisant que cette décision avait blessé les sentiments de l'humain islamique. Il a d'ailleurs souligné qu'en tant que secrétaire général de l'OCI, il tenait des consultations avec différentes parties pour faire pression sur le régime sioniste et l'obliger à arrêter de telles actions. Toujours au sujet de la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa à Téhéran, met en garde contre les conséquences graves, le ministre iranien des Affaires étrangères, dans une conversation téléphonique avec son homologue koweïtien, tout en appréciant les positions des 7 secrétaires généraux de l'Organisation de la coopération islamique OCI, en condamnant immédiatement l'acte provocateur des sionistes qui ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa et l'ont profané, a souligné. Les conséquences d'une telle action seront lourdes pour le régime factice israélien. Le très haut diplomate iranien a proposé, lors de cet entretien téléphonique, la création d'un mécanisme juridique international efficace pour arrêter les actions offensantes contre les autorités religieuses, source d'inspiration, et les lieux saints. Pour sa part, le ministre kovessien des Affaires étrangères a salué la proposition et l'initiative de la République islamique d'Iran pour une action coordonnée de l'Organisation de la coopération islamique pour arrêter les actions offensives du régime sioniste qui représente une menace pour la paix et la stabilité dans la région. L'accord nucléaire de 2015, le chef de la délégation russe dans les négociations pour la levée des sanctions et la relance de l'accord nucléaire de 2015, Mikhaïl Ulyanov, a déclaré que les accusations de l'Occident sur une prétendue fourniture de drones par l'Iran à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine est une excuse maladroite pour arrêter les pourparlers sur la reprise de la mise en œuvre du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint. Mikhaïl Ulyanov a posté un message sur Twitter vendredi matin 6 janvier et a écrit « Il semble que la Troïka européenne, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, signataires du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, et les États-Unis qui ont violé unilatéralement en 2018 le pacte international, veulent s'orienter vers le plan B ». Il a qualifié de grosse erreur cette approche et ajouté « Il est difficile de s'attendre à ce qu'un tel plan soit une option crédible. Une telle tentative restera fort éventuellement stérile. » Les pourparlers sur la reprise de la pleine mise en œuvre du PGAC actuellement en pause après des mois de consultations intensives ont atteint un stade où l'accord final sera atteint si et seulement si les États-Unis, en tant que partie violant le PGAC, acceptent les revendications et les exigences raisonnables de l'Iran pour la formation d'un accord stable et fiable. La plupart des pays participant au pourparlers souhaitent une conclusion plus rapide des négociations, mais la conclusion d'un accord final dépend des décisions politiques des États-Unis concernant plusieurs questions importantes et clés restées en suspens. Autre thème, l'Iran apprécie l'interaction positive de la Syrie avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a apprécié ce jeudi l'interaction positive de la Syrie avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et a souligné qu'il était nécessaire de répondre aux préoccupations légitimes du gouvernement syrien à cet égard. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le dossier chimique en Syrie, le diplomate a indiqué « Depuis la précédente réunion du Conseil de sécurité, aucun nouvel événement ou développement ne s'est passé. » Un rapport du représentant du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies n'a pas non plus fourni d'informations nouvelles sur la situation. L'eurodiplomate a ajouté « La réunion d'aujourd'hui soutient une fois de plus l'idée qu'en l'absence de progrès et de développement dans ce cas, la tenue de réunions régulières et mensuelles n'est qu'un gaspillage des ressources de l'ONU et du temps des membres du Conseil de sécurité. » L'ambassadeur de la République islamique d'Iran a poursuivi « L'Iran soutient la résolution des questions restées en suspens liées à l'affaire chimique syrienne dans son cheminement technique au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques par le dialogue et la coopération constructive entre la Syrie et cette organisation. Pour atteindre cet objectif, toute enquête doit être impartiale, professionnelle, valable et objective et doit être pleinement conforme aux exigences » et aux procédures de la Convention, a-t-il conclu. Enfin, des sources palestiniennes ont rapporté que des combattants palestiniens avaient ouvert le feu sur le QG des soldats israéliens à proximité de la colonie israélienne de Har Braka, au sud de Naplouse. Le régime sioniste a immédiatement annoncé l'état d'alerte général sans pour autant fournir des détails sur le bilan des pertes humaines de la fusillade. Par ailleurs, les combattants du groupe de résistance palestinien baptisé la Fosse aux Lions ont déclaré dans un communiqué avoir pris pour cible hier mercredi le QG de l'armée israélienne à Havara ainsi que deux de ses postes de contrôle. Sur fond d'un changement majeur dans la stratégie de la résistance palestinienne, le site web israélien Vala a récemment rapporté que des personnes non identifiées avaient réussi à s'introduire dans la base d'artillerie Shivta de l'armée israélienne dans le Negev au sud-est des territoires occupés. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par Israël. Le Conseil de sécurité réagit. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence jeudi 5 janvier à la suite de la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa à Quds occupée par le nouveau ministre du régime israélien et figure de l'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, ait demandé la condamnation ferme de cette visite qualifiée de provocation et qui suscite un tollé international. En effet, alors qu'il était escorté par les militaires, Itamar Ben-Gvir a fait irruption le mardi 3 janvier sur l'esplanade des mosquées de Quds, ce qui a soulevé une vague de protestations internationales. Les pays protestataires sont unanimes sur le fait qu'il appartient à la communauté internationale de décider de défendre et de protéger le statu quo historique à Quds occupée et de ses lieux saints. Un conseil de 15 membres s'est donc réuni au siège des Nations Unies à New York suite à une demande conjointe des missions de Palestine et de Jordanie auprès des Nations Unies. La demande a été présentée par les Émirats arabes unis et la Chine. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont qualifié l'action du régime israélien de provocatrice et d'inquiétante avant de la condamner. S'adressant à la session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Khaled Kehari, le sous-secrétaire général pour les affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Océanie, a déclaré: la situation sur les lieux saints de Quds est profondément fragile et tout incident ou tension là-bas peut déborder et provoquer des violences dans tous les territoires occupés de la Palestine et ailleurs dans la région. L'ambassadeur chinois auprès de l'ONU, Zhang Juan, a déclaré que l'acte du responsable israélien avait entraîné une situation fragile et grave sur le terrain et appelé Israël à mettre fin à toutes les incitations et provocations et à s'abstenir de toute action unilatérale. La Chine est extrêmement préoccupée par ces actions et exige la paix sur les lieux saints comme la mosquée d'Al-Aqsa, a-t-il dit. Il a également déclaré que Pékin soutenait la création d'un État palestinien indépendant et condamnait toute action qui changerait le statu quo de Quds. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a aussi affirmé que la visite de Ben-Gvir à la mosquée d'Al-Aqsa était préoccupante et que la violation du statut historique de Quds occupé était inacceptable. Moscou réitère son opposition aux actions qui modifient le statut historique des lieux saints, a-t-il réaffirmé. Il a espéré que le nouveau cabinet israélien ne choisira pas la voie de l'escalade des tensions. L'ambassadeur des Émirats arabes unis à l'ONU a également exigé la protection totale de la mosquée d'Al-Aqsa eu égard au statu quo saint de ce lieu sacré et appelé le Conseil de sécurité à adopter des actions intégrées pour empêcher les actions provocatrices. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, Hissein Ibrahim Taha, se sont également entretenus jeudi par téléphone. Ils ont discuté des derniers développements dans la région et dans le monde musulman, notamment de la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par le régime israélien. Le patron de la diplomatie iranienne a salué la position du secrétaire général de l'OCI et sa prompte condamnation de la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par le régime israélien, soulignant que le régime factice israélien subira les conséquences de cette décision. Hossein Amir Abdollahian a fait référence aux actions provocatrices du régime israélien contre la mosquée d'Al-Aqsa et a proposé la mise en place d'un mécanisme juridique international efficace afin de mettre fin au sacrilège des lieux saints. Le secrétaire général de l'OCI a pour sa part condamné la récente profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par le régime de Tel Aviv. M. Taha a qualifié la visite du ministre israélien à la mosquée d'inquiétante et a souligné que cette décision a profondément ébranlé les sentiments de l'humain islamique.
Bonjour à tous, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de monsieur général Soleimani, qui est décédé depuis 3 ans. L'Iran et le monde entier ont réagi à cet anniversaire. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comme le veut notre format débat, je vous propose tout d'abord un reportage qui vous montrera les images où les gens ont pensé et ont célébré la mort de l'anniversaire et font les cérémonies de mort à l'occasion de l'anniversaire de mort de Qassem Soleimani. Ce sont les images que vous propose pour le reportage et par la suite nous ferons venir nos invités. Tout de suite, le reportage.
3e anniversaire de l'assassinat du général Soleimani. Les Iraniens lui rendent hommage. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à travers l'Iran pour rendre hommage à leur héros martyr, le général Qassem Soleimani, un commandant de renommée mondiale de la lutte antiterroriste qui a été assassiné par les États-Unis le 13 janvier 2020 à Bagdad. Les habitants de Kerman ont organisé ce mardi 13 janvier des rassemblements et des cérémonies commémoratives dans la ville natale du général Soleimani pour marquer le 3e anniversaire de son assassinat. Des cérémonies similaires ont également eu lieu dans la capitale iranienne, Téhéran, et dans d'autres villes, notamment Isfahan, Yazd, Birjand, Rasht, Shahrekord et Arak. Le général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, et son compagnon de tranchée, l'Irakien Abu Mahdi al-Muhandes, commandant adjoint des unités de mobilisation populaire d'Irak, Hashd al-Shaabi, ont été tués en martyr avec leur compagnon dans une frappe de drone américain le 13 janvier 2020 près de l'aéroport international de Bagdad. Un attentat commandité par le président de l'époque Donald Trump. Les deux défunts commandants étaient extrêmement respectés et admirés dans toute la région pour leur rôle déterminant dans la lutte et la décimation du groupe terroriste Daesh, en particulier en Irak et en Syrie. Dans un communiqué publié lundi, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'assassinat du plus haut commandant antiterroriste iranien était l'exemple flagrant d'un acte terroriste organisé. Aussi indubitable qu'il soit l'assassinat du général Soleimani conçu et exécuté par les États-Unis constitue un exemple flagrant de l'acte terroriste organisé, indique le communiqué. Plus tôt dans la semaine, le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a salué le sacrifice du général Soleimani, affirmant que l'icône antiterroriste avait renforcé, équipé et ravivé le front de résistance contre Israël et les États-Unis. Son assassinat par les Américains a suscité une vague de condamnation dans le monde entier et déclenché d'énormes manifestations dans la région, les législateurs irakiens approuvant un projet de loi deux jours après l'attaque américaine appelant au retrait de toutes les forces militaires étrangères dirigées par les États-Unis du pays.
Nous revoilà sur le plateau. Nous allons donc tout d'abord faire les bienvenues à nos deux experts et invités. Pour commencer, Monsieur Amrouni, expert en questions politiques. Bonjour, Monsieur Amrouni.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Chami et bonjour à tous nos...
Merci. Et notre deuxième invité étant Monsieur Maître André Chami, juriste, et notre autre expert du jour. Bonjour, Maître André Chami.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, tous mes vœux pour cette nouvelle année et bonjour à Monsieur Amrouni.
Merci à vous pour vos vœux, à vous également une belle nouvelle année, une meilleure nouvelle année j'ai envie de dire. Cette semaine a eu lieu donc les commémorations, les cérémonies de deuil concernant donc le général Qassem Soleimani, 3 ans après. Nous avons vu donc par le biais de ce reportage les réactions nationales, mais il n'y a pas eu que des réactions nationales, il y a également eu des réactions internationales, parfois dans la région et parfois à l'extérieur de la région. Je vous propose, M. Amrouni, d'en discuter. Est-ce que vous avez vu les réactions internationales, notamment en Europe, concernant donc cette cérémonie de 3 ans, 3 ans après la mort du décès du général, qui a été un véritable symbole pour unifier les milices concernant donc le terrorisme?
Bien sûr, le martyr du général Qassem Soleimani, le leader de la résistance mondiale contre l'impérialisme et le sionisme, a de l'écho un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, en Russie. Ce monsieur, il représente pour tous les résistants, pour tous ceux qui résistent politiquement, militairement, économiquement, spirituellement, contre un système globaliste. Donc, cette commémoration, dans certains pays, elle prend forme d'une déclaration pour montrer que certains ne représentent pas simplement un leader militaire, mais c'est une école qui représente la résistance dans le monde. Donc, le général Qassem Soleimani, le nom, rien que son nom à l'époque fait fureur contre ses ennemis. C'est l'ennemi public numéro un des États-Unis et des sionistes. On a connu Qassem Soleimani dans les 10 dernières années, surtout dans la bataille contre les takfiristes, contre l'intégrisme, le fanatisme en Syrie et en Irak. C'est au moment que Qassem Soleimani a décidé de se retrouver dans les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans ses discours, pour montrer qu'il est sur le terrain pour combattre qui ? Les groupes terroristes. Il faut rappeler que ces groupes terroristes, ils ont fait des victimes chez nous, en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, par centaines. Donc Qassem Soleimani, c'est un leader antiterroriste. Il a protégé pas simplement l'Iran, pas seulement la région du Moyen-Orient, il a protégé l'Europe aussi contre ces groupes takfiristes qu'on appelle Daesh ou Al-Qaïda ou bien d'autres. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis de l'Europe dans les camps donc, de ces groupes terroristes et il y avait Qassem Soleimani. Il y avait Qassem Soleimani avec ses amis, avec ses alliés aussi sur place, qui a montré l'exemple comment on doit lutter contre ces groupes terroristes qui représentent un danger contre le monde. Ce n'est pas un danger contre la sécurité nationale iranienne. Ce que essayent en tout cas les journalistes, les médias en Europe et en Occident de montrer que Qassem Soleimani, ce n'est qu'un terroriste. Donc, entre parenthèses, Bien sûr, ce mot terroriste, Qassem Soleimani, il a bien montré par sa propre vie. C'est-à-dire, il a donné sa propre vie et la vie de ses compagnons pour protéger le monde. Pas simplement pour protéger l'Iran. Ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire, qui a combattu les groupes terroristes, à part Qassem Soleimani et ses alliés sur le terrain, que ce soit Syriens, Libanais, Irakiens et Russes? Est-ce que les Européens, est-ce que les Occidentaux, ils ont combattu les groupes terroristes en Irak, en Syrie et ailleurs? Il faut poser cette question. Donc, tout le monde, tous ceux qui suivent les événements depuis une dizaine d'années, savent que Qassem Soleimani a sacrifié sa vie pour défendre le monde contre le fanatisme et l'intégrisme et contre le terrorisme.
C'est ça l'œuvre de Soleimani. Merci, monsieur Amrouni. Maître André Chami, je ne sais pas si vous, les propos de monsieur Amrouni, vous les avez entendus. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue? Alors, juste, j'ai envie de rajouter que, oui, si beaucoup de pays européens ont défendu le choix américain d'assassiner, donc est-ce que c'est un assassinat, d'assassiner le général, il y a quand même des Européens, Parlement européen, cette semaine, qui ont rappelé le souvenir du général Soleimani en rappelant qu'il a été l'un des grands soldats contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez donc des propos tenus par M. Amrouni?
Vous savez, on ne peut pas résumer la vie du général Soleimani à l'épisode, si j'ose dire, de son martyr. Sa vie est tellement riche, et tellement intense et tellement immense qu'aujourd'hui, votre émission ou des dizaines d'émissions comme cela ne suffiraient pas pour en parler. Il y a effectivement un assassinat politique qui est commis par un État qui prétend lutter contre le terrorisme, qui est les États-Unis. Mais en réalité, c'est l'État de la terreur. C'est l'État qui a créé la terreur à travers le monde depuis sa naissance. La terreur contre les Indiens d'Amérique, c'est-à-dire les autochtones du pays, mais également la terreur à travers le monde. Regardez voir ce qui s'est passé au Vietnam, Grenada, au Moyen-Orient, en Irak. Regardez voir ce qui se passe en Syrie. Regardez voir ce qui se passe à travers le monde, en Afghanistan. Le monde entier est alimenté par la terreur américaine. Et à partir de là, ils auraient du mal à donner des leçons pour dire on justifierait l'assassinat de tel ou tel, quel qu'il soit. En revanche, tous ceux qui se sont opposés aux États-Unis, et ceux depuis la nuit des temps, je ne citerai que Guevara pour l'Amérique du Sud, mais au Moyen-Orient, même en Iran, Mossadegh, et bien d'autres, toutes ces personnes-là ont été directement ou indirectement tués par les États-Unis parce qu'ils perturbaient les projets américains dans la région. Et à partir de là, évidemment, pour eux, c'est un simple justificatif qui leur permettrait d'exécuter ces personnes-là. Et je précise au passage que l'ordre a été donné à cet instant-là, mais l'idée d'assassiner le général Soleimani avait été, prise et en tout cas adoptée plusieurs fois. Et la seule chose que l'on attendait, c'était l'occasion, en tout cas l'opportunité. Et Trump a estimé que c'était l'opportunité et à ce moment-là, il a procédé à la frappe par drone. Mais l'idée d'assassiner le général Soleimani existait déjà et le général Soleimani le savait. Et c'est la raison pour laquelle il avait du mépris pour les autorités américaines, à tel point que quand un émissaire de la CIA est venu le voir sur le terrain quand il était en Irak, il n'a même pas voulu le recevoir et il n'a même pas voulu connaître les termes du message qui lui était envoyé. Et ça, c'était la démonstration de son opposition, même morale, c'est-à-dire je n'ai pas à discuter, je n'ai même pas à dialoguer, je n'ai même pas à comprendre les raisons de ces gens-là parce que pour moi, ce sont les terroristes et je suis en train de les combattre sur le terrain. Je n'ai donc pas à recevoir des messages de leur part parce qu'ils savaient pertinemment que derrière Daesh, il y avait les États-Unis. Et la participation des États-Unis aux côtés de Daesh, notamment par l'héliportage d'un certain nombre de membres de cette organisation terroriste par les Américains et par les hélicoptères américains a été documenté. Par conséquent, il savait à qui il a affaire. Et c'est la raison pour laquelle, lui, sa vie était consacrée à l'idée du martyr. Pas un seul jour, pas un seul jour, y compris le jour de son anniversaire, il n'a demandé que d'être le martyr. Il demandait, j'espère que ce jour sera le jour de mon martyr. J'espère que ce sera l'année de mon martyr. Pas une personne sur terre n'a émis un tel souhait au quotidien, parce qu'il savait que sa main étendue vers Dieu, et Dieu pouvait la prendre à tout moment, et ça pouvait être aujourd'hui, comme ça pouvait être il y a 3 ans, comme ça pouvait être il y a 5 ans ou 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle il s'est exposé au cours de toute son existence, depuis le jour où il a quitté Kerman, et il s'est dirigé vers le service de la nation iranienne, il a su, il a compris que ça, je dirais, son kafan, c'est-à-dire son habit de martyr, il le portait et il attendait à tout moment d'être enveloppé par cet habit de martyr et puis bien entendu partir rejoindre les autres martyrs dont l'imam Hussein.
Merci, Maître André Chami. Il y a un autre point qu'il faut discuter par rapport au fait que, comme vous l'avez dit, Maître André Chami, il y a beaucoup de choses à dire, mais un des points les plus importants, c'est le côté unificateur du général Qassem Soleimani. Il ne faut pas oublier qu'il a fait face à l'Irak lors de la guerre Iran-Irak, mais malgré cela, l'impact qu'a pu avoir la guerre irakienne-irakienne, c'est la même, irakienne-iranienne, c'est le même impact qu'a pu avoir la première ou la seconde guerre mondiale en Iran. On parle de guerre de tranchées, on parle de choses extrêmement dures, mais malgré cela, Qassem Soleimani a réussi à unifier les terrains, a réussi à unifier les différents pays, hein, et on voit aujourd'hui les résultats de cette unification. On voit une amitié plus grande entre l'Irak et l'Iran, on voit une réaction pour pouvoir juger ceux qui sont responsables en Irak de l'assassinat du général. On voit le Liban également de plus en plus proche avec l'Iran, on voit également des réactions vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de ses pays voisins. Est-ce qu'on peut dire que c'est un héritage de Qassem Soleimani, c'est son martyr, mais également toute la vie, comme vous l'avez dit, riche, qu'il a pu avoir et qui s'est fait également fait preuve de compassion, parce qu'on n'oublie pas que beaucoup d'Iraniens sont morts au nom des guerres qui ont été menées au Moyen-Orient, parfois par les mains même des Arabes de la région. Mais malgré ça, Qassem Soleimani a cherché à unifier les peuples. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Maître André Chami?
Vous savez, comme je le disais, le général Soleimani a une idée de la vie, il a une philosophie de vie, mais il a aussi une philosophie par rapport à la géopolitique, c'est-à-dire qu'il savait distinguer l'ami des ennemis. Il était prêt à œuvrer aux côtés des Iraniens et des Syriens, même s'il pouvait tomber de temps à autre sur des ennemis de sa propre nation, de sa propre vie, de sa propre existence, de son propre combat au sein de ces pays-là. Et il l'a démontré au cours de toute son existence. Il a toujours prêché pour 2 choses. D'abord combattre, parce que le combat, c'est, je dirais, l'essence de sa vie, mais en même temps convaincre. C'est-à-dire, il avait toujours cette main tendue par rapport à ses peuples, en disant, je ne suis pas votre ennemi, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour mener une bataille contre nos ennemis communs. Nos ennemis communs, c'est l'impérialisme américain, entre autres, c'est l'impérialisme américano-sioniste, et nous devons nous tendre la main, nous devons, je dirais, nous tenir la main pour combattre tous ces gens-là. Parfois, il y a ce que j'appelle des traîtres de leur propre nation, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, partout, parce que les traîtres existent, y compris en Iran, et ces traîtres-là devraient être traités comme tels. Et malgré cela, il n'a jamais, jamais lésiné sur l'idée de tendre la main, parce qu'il avait aussi une idée pour convaincre, pour convertir, si j'ose dire, ces personnes-là à la bonne voie, sur le droit chemin, parce qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul chemin, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin du droit, et c'est le chemin de la solidarité entre les peuples, vis-à-vis des envahisseurs et vis-à-vis des oppresseurs. C'est aussi simple que ça. Vous avez le combat du bien contre le mal et des opprimés contre les oppresseurs. Et le général Soleimani a adopté la cause des opprimés contre les oppresseurs. Et il est mort en raison de ce combat-là, aux côtés des opprimés. Je pense que son martyr en Irak est également un symbole, parce que c'est là qu'il a mené les plus grandes des batailles, si j'ose dire, contre le terrorisme mondial, mais aussi contre le terrorisme américain, qui, au prétexte de venir civiliser cette nation-là après le départ de Saddam Hussein, après, je dirais, l'invasion de l'Irak, mais en réalité, il a démontré que cette invasion n'avait rien à voir avec la civilisation que l'on devait étendre. Tout simplement, ça a à voir avec l'occupation, pour dominer et pour oppresser ces opprimés d'Irakiens. Les Irakiens l'ont compris, mais il a fallu l'aide également du général Soleimani, et le général Soleimani est mort pour cette cause-là.
Ainsi que beaucoup d'autres Iraniens et beaucoup d'hommes valeureux. Monsieur Amrouni, on voit ces derniers temps la Turquie, on dit, il y a des rumeurs qui disent que la Turquie aurait retiré ses soldats de la partie syrienne. On sait que le général Soleimani a beaucoup œuvré pour que les peuples à travers la Syrie et l'Irak soient unifiés, puisque ça a été un petit peu le point d'impact des Américains pour pouvoir diviser pour mieux régner. Et là, à l'heure actuelle, on voit un mouvement vers une réunification, vers un respect de la souveraineté. Est-ce qu'on peut dire que c'est un héritage donné par tout le travail accompli de Qassem Soleimani?
En fait, ça montre le génie de ce monsieur. Ce monsieur, c'est pas simplement un chef militaire, il n'était pas simplement un militaire, c'est un stratège. Et Qassem Soleimani, comme il a dit Maître Chami, c'est vraiment une école, une grande école. On peut faire une centaine d'émissions sur sa vie, parce que c'est 40 ans de combat, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans. Peut-être l'opinion publique internationale a connu Qassem Soleimani et ses 10 dernières années. Donc le stratège Qassem Soleimani, il a compris que la Syrie, c'est le point essentiel de la recolonisation de la région. Et donc, il a tout fait pour ramener donc, la résistance, pour ramener les groupes de résistance en Irak, au Liban et ailleurs pour venir se battre en Syrie. Et il est allé même en 2015 rencontrer le président Poutine, parce que même la Russie n'avait pas rentré dans la guerre en Syrie lorsqu'elle s'est déclenchée, en fait. Elle a mis du temps, et c'est grâce au stratège Qassem Soleimani qui a su et qu'il a pu convaincre donc la Russie pour venir soutenir l'effort de guerre de l'armée syrienne. Et donc, c'est un point très stratégique. Le général Qassem Soleimani, il a su convaincre que dans l'intérêt des Russes de venir en Syrie. Et c'est tout le génie, si vous voulez, de Qassem Soleimani. C'est pour cette raison, les Américains considéraient que Qassem Soleimani, il était l'homme où on le voyait partout. On le trouvait partout. Là où il y a l'impérialisme américain, il y avait Qassem Soleimani. Et c'est pas simplement en Irak ou en Syrie. Il est allé en Palestine, il est allé au Yémen, il est allé en Venezuela et ailleurs en Amérique latine et même en Afrique. Donc, ce monsieur-là, sur le dossier syrien, c'est là où on a commencé à le voir sur le terrain. Il menait les combats. Il faut voir. C'est-à-dire un homme qui a presque 60 ans, qui passait toute sa vie sur les fronts militaires, que ce soit pendant la guerre Irak-Iran ou contre les groupes criminels sur les frontières afghans et pakistanais. Et après, on le voyait donc au Liban, dans la guerre de la résistance en 2006. Qassem Soleimani, il a bien compris que les États-Unis, que l'Occident veut recoloniser cette partie, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Afghanistan et le Yémen. Donc, il a bien compris que si on gagne la bataille en Syrie, on va gagner la bataille contre l'impérialisme américain. Et c'est grâce à cette intelligence stratégique qu'il a pu faire venir les Russes. Et lorsque les Russes sont venus en Syrie, et donc on a vu le changement tactique et stratégique de cette guerre. Et même les Turcs, qui sont membres de l'OTAN, mais en même temps, il a su aussi convaincre les Turcs de garder leurs intérêts avec les Russes et avec les Iraniens. Et c'est l'œuvre de Qassem Soleimani aujourd'hui qu'on le voit se réaliser, c'est-à-dire la stabilité politique syrienne, le retour dans les alliances russes, iraniennes, syriennes, sur place, avec les Turcs peut-être, avec un gouvernement stable irakien, et donc avec une région qui commence à se solidariser. Et que la résistance, ce n'est plus un effet de groupe, mais elle est devenue résistance d'État. C'est ça l'œuvre de Soleimani. Comment rendre la résistance un œuvre d'État et pas simplement des groupes de personnes. Donc aujourd'hui, la Syrie, elle se stabilise politiquement, elle a besoin de se stabiliser économiquement, et donc le retour des relations diplomatiques entre la Turquie et la Syrie et entre la Syrie et l'Arabie Saoudite renforce la stabilité économique de la Syrie et renforce la stabilité politique de l'Irak et de la Syrie aussi. Donc l'œuvre stratégique de Qassem Soleimani, c'est comment se mettre au service des peuples. Parce qu'ici, en Occident, par exemple, on essaie de montrer que Qassem Soleimani sert la politique étrangère iranienne, l'État iranien. Qassem Soleimani, il sert les peuples. Et il met les moyens que la République islamique iranienne, elle possède, au service du peuple irakien.
Merci, Monsieur Amrouni. Merci, Monsieur Amrouni.
C'est ça l'œuvre de Qassem Soleimani. C'est un stratège, plus qu'un chef militaire.
Merci, Monsieur Amrouni. Comme vous l'avez certainement pensé, l'émission prend fin dans très peu de minutes. Bien entendu, comme nous a dit nos deux experts d'aujourd'hui, on pourrait parler des heures de l'œuvre de vie du général Qassem Soleimani, chose qui continue d'ailleurs, puisque comme on vient d'en parler, il y a une forme d'unification qui est en train de se faire et qui continue à se faire au Moyen-Orient. On espère tous que cette œuvre qu'il a accomplie et qu'il a commencée continuera à se forger. Nous, notre émission finit là pour l'instant. Je vous propose un autre débat pour un autre jour. D'ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Donner un sens aux frappes de l'OTAN contre la Russie. Il ne fait aucun doute que l'OTAN s'efforce d'intensifier la guerre en Ukraine. Juste avant la fin de l'année, deux frappes de drones ont eu lieu contre une importante base des forces aérospatiales à Engels. Les attaques n'ont pas été couronnées de succès, mais des Russes sont morts lorsque des éclats d'obus ont touché un camion-citerne qui a explosé. L'importance de cette attaque tient en fait qu'Engels est situé au cœur de la Russie. Ensuite, il y a eu diverses petites attaques contre divers postes frontaliers russes et des villes proches de la frontière. Et maintenant, ceci en une seule journée. Un drone ukrainien frappe une installation énergétique en Russie, selon le gouverneur, et des dizaines de morts dans une attaque ukrainienne contre des troupes russes, selon Moscou. Traitons d'abord du deuxième titre. La première chose que nous devons dire est qu'il s'agissait clairement d'une cible légale en vertu des lois de la guerre. L'OTAN a frappé du personnel militaire russe et c'est une cible tout à fait légale. Cependant, si nous regardons un peu plus loin, nous nous rendons compte que l'attaque IMARS a clairement été menée par des volontaires conseillers occidentaux, c'est-à-dire des membres de l'OTAN qui ont retiré leur uniforme et sont sous couverture. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une nouvelle attaque directe de l'OTAN contre les forces russes. Dans ce contexte, il faut donc se poser une question fondamentale. Quel est l'objectif de ces frappes? Commençons par quelques truismes. Premièrement, aucune de ces frappes ne changera quoi que ce soit au cours de cette guerre, tout comme les frappes et les agressions israéliennes contre le Liban ou la Syrie. Cependant, alors que les frappes et les agressions israéliennes contre la Syrie sont faites pour des raisons psychothérapeutiques, ce n'est pas le cas des frappes de l'OTAN, y compris celles non revendiquées contre Engels. Deuxièmement, après chacune de ces frappes, beaucoup de gens se demanderont ce que la Russie va faire à ce sujet. Le précédent est l'attaque du pont de Crimée qui a donné à la Russie un prétexte pour éteindre les lumières aux bandes restants. Et oui, ce n'était clairement qu'un prétexte, car une campagne de frappe massive de ce type ne peut être planifiée et exécutée rapidement en quelques jours. La vérité évidente est que les Russes étaient tout à fait prêts à déclencher leur frappe bien avant l'attaque du pont de Crimée, mais qu'ils étaient plus heureux d'avoir cette attaque comme prétexte par opposition à une raison pour frapper. Et si vous vous posez la question, sachez que la Russie continue de mener quotidiennement de telles frappes, y compris des frappes impliquant des centaines de missiles. Ces frappes successives ne sont pratiquement pas rapportées dans les médias occidentaux. Néanmoins, l'OTAN n'agit pas uniquement pour montrer qu'elle peut agir. Il y a un véritable objectif militaire derrière ces frappes. Et il ne s'agit pas simplement de provoquer la Russie pour qu'elle réponde d'une manière ou d'une autre. La guerre est déjà en cours. Les Russes se battent déjà sur une très longue ligne de front. Les forces aérospatiales russes frappe déjà des cibles dans toute l'Ukraine, alors qu'y a-t-il de plus à provoquer ou déclencher? Il n'y a qu'une seule chose que les Russes n'ont pas encore faite, et c'est l'opération combinée de grande envergure que l'état-major russe est manifestement en train de préparer. Et puisque cette offensive majeure est presque certaine, la seule chose que ces frappes de l'OTAN pourraient affecter est le moment de l'attaque. Et comme il n'y a aucun moyen pour que ces frappes de l'OTAN puissent retarder l'offensive russe, leur seul objectif possible serait de la faire arriver plus tôt. Mais pourquoi l'OTAN voudrait-elle que l'offensive russe ait lieu plus tôt que tard? Dans toutes leurs autres actions, les anglo-sionistes ont essayé de faire durer cette guerre aussi longtemps que possible. Alors pourquoi voudraient-ils que les Russes attaquent plus tôt? Parce que l'état-major russe attend que tous les canards soient alignés avant d'attaquer. Ainsi, en essayant de forcer les Russes à attaquer prématurément, l'OTAN essaye très logiquement d'empêcher que tous les canards soient alignés. En d'autres termes, l'OTAN tente de forcer la main de l'état-major russe en augmentant la pression sur le Kremlin pour qu'il passe enfin à l'action. Essayer de contraindre son ennemi à une attaque prématurée est parfaitement logique sur le plan militaire. Mais comment analyser l'efficacité de ces efforts de l'OTAN? Il convient de mentionner ici une profonde différence culturelle entre la société russe et la société occidentale. La plupart des Russes ont une bien meilleure compréhension de la guerre que les Occidentaux. Cela vaut pour les civils comme pour les généraux. Il y a de nombreuses raisons à cela. De nombreux Russes ont une formation militaire. Presque tous les Russes ont perdu des membres de leur famille pendant la Seconde Guerre mondiale et savent donc à quel point la guerre est horrible. La culture russe des livres aux films est remplie d'histoires de guerre et pas du type Tom Clancy, mais de la vraie guerre. Les guerres en Tchétchénie, en Croatie, en Bosnie, en Serbie, en Géorgie, en Syrie, en Arménie et bien d'autres conflits encore ont éduqué la société russe aux réalités douloureuses de la guerre. Il faut dire que l'OTAN fait tout son possible pour forcer les Russes à respecter le calendrier de l'OTAN et à sortir de leur calendrier prévu. Un effet secondaire bénéfique supplémentaire de ces frappes pour la façade et de donner aux crétins du Congrès une raison d'injecter encore plus d'argent. Quant à forcer la Russie à attaquer dans des conditions sous-optimales, cela n'arrivera pas. Ni Poutine, ni Shoigu, ni d'autres responsables militaires de ce pays ne sont du genre à répondre à l'hystérie par des actions rien que pour la façade. Et cela vaut également pour l'ensemble de l'état-major général. Dans ce contexte, il faut souligner que la grande offensive combinée aura lieu quand Poutine le décidera, pas quand l'OTAN le voudra. La grande inconnue est ce que l'OTAN fera lorsque cette offensive se produira. Vous pouvez être sûr que les meilleurs esprits des États-Unis travaillent sur la tâche suivante : comment déclencher une guerre occidentale sans impliquer directement et officiellement les États-Unis.